Europejskie.
Rozumią tu Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Le scrutin anticipé du 10 novembre dernier n'a rien changé. Après 4 élections législatives en 4 ans, l'Espagne est toujours à la recherche d'une majorité introuvable. Devant des Espagnols incrédules, les socialistes de Pedro Sanchez qui se sont maintenus et la gauche radicale de Podemos en net recul ont finalement ébauché une coalition, ce qu'ils n'avaient pas réussi à conclure il y a encore quelques mois. Mais cela reste insuffisant pour former une majorité. À droite, le Parti Populaire relève la tête. Toutefois, seul Vox, le parti d'extrême droite, sort vainqueur de ces élections. Il est devenu la troisième force politique du pays. Quant à la situation de blocage qui perdure en Catalogne, elle paralyse le reste du pays. Bref, l'Espagne est toujours dans l'impasse. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Marc Berset, vous êtes correspondant du quotidien El País en France.
Bonjour, merci.
Benoît Pellistrandi, bonjour, vous êtes professeur d'histoire et vous venez de publier, enfin il y a quelques mois, un livre que tout le monde a remarqué sur le labyrinthe catalan. Chez Desclés de Brouwer, c'est vrai que c'est très très difficile de comprendre ce qui se passe en Catalogne. On essaiera d'y voir plus clair dans la deuxième partie de l'émission. Henri Laguérie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de l'ARTBF de la Dépêche du Midi en Espagne. Merci d'être en ligne de Barcelone. Et vous aussi, vous avez publié un livre qui s'appelle « Les Catalans aux ateliers Henri Dougier ». Alors, c'est plus une introspection sur qui sont ces Catalans et comment la Catalogne est devenue ce qu'elle est. Vous ne traitez pas uniquement du problème politique de la Catalogne, hein, c'est bien ça.
Il n'y a pas que ça, on essaie d'aller au-delà de cette question qui occupe beaucoup les médias.
Alors, le résultat de ces élections anticipées, c'est d'abord, Benoît Pellistrandi, un échec, celui de Pedro Sanchez, le Premier ministre socialiste, qui espérait, en convoquant ces élections, gagner une trentaine de députés et enfin atteindre cette fameuse majorité de 176 sièges, puisqu'il y a 350 députés au Congrès des députés. Il a tenté le pari, il a échoué.
Il a tenté le pari, cela dit, il savait qu'il n'aurait pas la majorité absolue. Mais il a, dès qu'il est arrivé au gouvernement, nommé un nouveau responsable à la tête du Centre de Recherche Sociologique, L6, qui est le grand organisme qui fait les sondages pour le gouvernement. Et Félix Tosanos, qui est cet expert, avait publié des sondages particulièrement favorables au Parti Socialiste, et notamment celui qui a été publié fin octobre, où le PS était crédité de 150 sièges. Dans ces conditions, effectivement, Pedro Sanchez aurait eu les moyens de gouverner. Alors, il faut juste rembobiner un tout petit peu le film. Les élections précédentes ont eu lieu le 28 avril. Les socialistes l'ont largement emporté parce qu'ils ont eu 123 sièges. Et surtout, il y a eu un effondrement du Parti Populaire qui est tombé de 32% des voix à 16%. Un désastre historique, ils avaient 66 sièges. Mais il n'y avait pas de majorité simple. Et surtout, il y a quand même des députés indépendantistes dont le concours pour former une majorité est arithmétiquement nécessaire, mais politiquement impossible. Donc dans ces conditions, Pedro Sanchez n'a pas été investi chef du gouvernement. Il y a eu un premier vote le 23 juillet, un deuxième vote le 25 juillet. Et à partir de là, commencer le fameux compte à rebours. Si dans les deux mois qui suivaient, le Parlement n'était pas capable d'élire un chef de gouvernement, il était automatiquement dissous. Et Pedro Sanchez a joué cette montre parce que fort de ses indications de sondage, il pensait aborder les élections en meilleure position. Et comme vous le dites, le pari est en partie perdu. Il est passé de 123 sièges à 120 sièges. Unidas Podemos aussi a reculé de 42 à 35. Mais ce qui est très étonnant dans ce résultat des élections, c'est qu'il est paradoxalement très stable. Droite et gauche restent exactement au même niveau, 43% les deux. Il y a vraiment des variations infinitésimales. Avec, à l'intérieur des camps, des redistributions très sensibles, surtout à droite.
Pedro Sanchez reste quand même incontournable. Si quelqu'un peut former un gouvernement, c'est lui.
Exactement. Il continue à être largement le candidat du parti le plus voté avec le plus de sièges. Il n'a pas une majorité absolue, mais il n'y a pas une autre alternative. Il n'y a pas un autre leader qui pourrait se postuler pour être le premier ministre, le président du gouvernement espagnol au lieu de Pedro Sanchez. Donc tout doit passer pour lui, mais il n'a pas la force suffisante pour pouvoir gouverner en ce moment.
Alors, si on passe un petit peu en revue le résultat de ces élections, bon, le Parti Populaire, c'est-à-dire la droite classique, se redresse au détriment de Ciudadanos, qui pendant un moment, c'était une espèce de sous-produit du Parti Populaire, une droite un peu plus moderne, plus libérale, qui s'est complètement effondrée, parce que peut-être que le cap n'a pas été très très bien tenu par les dirigeants de Ciudadanos. Marc Bassett.
Oui, Ciudadanos est l'un de ces partis qui est apparu dans la dernière décennie, de la dernière 15 années, avec la recomposition qui est arrivée partout en Europe, mais en Espagne aussi, avec d'autres formes, mais la recomposition du paysage politique. Il y a eu le parti de gauche radical populiste Podemos, qui serait le plus proche de ce qu'en France est la France insoumise. Et il y a eu Ciudadanos, qui est un parti né en Catalogne, et après devenu un parti espagnol, avec une ligne idéologique pas toujours clair. À l'origine, c'était un parti de centre-gauche. Après, c'était un parti libéral. Et dans la dernière année, c'est un parti qui a eu l'ambition de devenir le grand parti de la droite espagnole.
La Ciudadanos a un peu flirté avec l'extrême droite au cours de la dernière période.
A même flirté évidemment, exactement, avec l'extrême droite, en formant des gouvernements régionaux qui étaient soutenus par le parti d'extrême droite, Vox. Donc, un parti qui se voulait centriste libéral. En fait, c'est le parti frère de la République en marche en France, a fini par faire des accords indirects avec le Front National espagnol.
Oui, ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes au niveau du groupe européen, au Parlement européen, puisque la République en marche et Ciudadanos sont dans le même groupe, ce qui paraît évidemment maintenant un petit peu étrange. Alors, Henri de Laguérie, si on constate un petit peu ce vote, le seul vrai grand gagnant, c'est Vox, le parti d'extrême droite, qui était quasi inexistant il y a 2 ans.
Oui, effectivement, Vox, ça fait 5 ans qu'ils existent, mais il y a un an, je pense que 98% des Espagnols n'avaient jamais entendu parler de ce parti, qui a émergé donc en Andalousie, aux élections régionales andalouses, il y a à peu près un an, et qui a eu ses premiers élus au mois d'avril, et qui là a fait une percée assez exceptionnelle. Ils ont doublé leur score, ils ont 52 sièges désormais en Espagne, c'est la troisième force politique du pays, et c'est un parti finalement qui ressemble aux autres partis d'extrême droite en Europe, avec un discours très hostile à l'immigration, un discours assez hostile à l'Europe, mais avec un discours très très hostile aussi au mouvement féministe, et ça c'est une particularité peut-être un petit peu plus espagnole, et enfin on en reparlera plus tard, un discours très très anti-catalan. Mais c'est quand même assez curieux parce que dimanche 10 novembre, j'étais le soir des élections au siège du Parti Socialiste, les socialistes avaient perdu leur pari, et pourtant les cadres présents sur place faisaient la fête, ils avaient l'air très contents, j'ai eu du mal à comprendre cette joie, parce que franchement il n'y avait pas de quoi pavaner. Et en fin de soirée, un cadre m'explique, regardez le score de l'extrême droite avec cette extrême droite si haute, la gauche est obligée de se rassembler. Et paradoxalement, le très bon score de Vox explique peut-être pourquoi les socialistes et Podemos, 2 jours après les élections, se sont présentés devant la presse avec un préaccord de gouvernement.
Alors on va évidemment y revenir, mais je voudrais revenir un petit peu sur la naissance de Vox. Henri de Laguérie, vous nous avez dit que le parti existe depuis 5 ans, mais personne ne savait qu'il existait. Il a émergé il y a une année. Qu'est-ce que c'est que ce parti Vox? Il représente quels sont ses électeurs? C'est le vote d'un réactionnaire, c'est le vote des nostalgiques de Franco, peut-être un peu revigoré par le transfert de la dépouille de Franco. Benoît Vélixandé, qui sont les électeurs de Vox et quelle est l'idéologie profonde de Vox?
Vox est d'abord une scission du Parti Populaire. Ce sont des militants du Parti Populaire qui ont quitté le parti en reprochant à Mariano Rajoy, alors président du parti et président du gouvernement, son attitude temporisatrice par rapport à la question catalane et à la question des nationalismes. Le noyau fondateur de Vox sont d'ailleurs des anciens militants du Parti Populaire au Pays Basque, c'est-à-dire de gens qui ont, dans leur vie, souffert le terrorisme de l'ETA. Et l'un des fondateurs de Vox est quelqu'un qui est très connu en Espagne, qui est Ortega Lara, qui est un ancien fonctionnaire de prison qui a été enlevé par l'ETA et kidnappé
oui,
pendant
oui.
550 jours dans un trou de 2 mètres sur 2 mètres. Donc Ortega Lara est quelqu'un qui est absolument inattaquable d'un point de vue moral, même si bien sûr ses thèses politiques sont proches de l'extrême droite, parce que il n'y a pas simplement cette question du nationalisme, il y a la question de l'immigration qui est extrêmement forte. Ce sont des gens qui portent la théorie du grand remplacement, c'est-à-dire que ce sont des hordes d'immigrés qui vont remplacer la population espagnole. Donc Vox au départ, je dirais, c'est vraiment quelque chose de tout à fait marginal. Alors, en 2015 aux élections, ils font 0,2% des voix, c'est-à-dire ils ont effectivement les voix de tout ce qui a toujours été l'extrême droite en Espagne depuis 1977, un truc absolument résiduel. Alors qu'est-ce qui tout d'un coup les a fait monter en avant? comme on a les deux scrutins d'avril et de novembre, moi j'étais très frappé au mois d'avril, Vox a fait 10% des voix, 22 députés, mais c'est surtout dans le sud de l'Espagne qu'ils ont eu de très gros scores, en Andalousie, à Murcie, c'est-à-dire là où la question migratoire était forte. Et puis, entre avril et novembre, il y a eu à nouveau la question catalane qui a repris le devant de la scène. Et cette fois-ci, je dirais, il y a un deuxième moteur de la fusée Vox qui s'est allumé, qui est cet anticatalanisme très profond, cette envie qu'ont les Espagnols qu'on passe à autre chose et puis voilà, qu'on règle la question peut-être un peu brutalement. Et puis, troisième élément, vous avez raison de le rappeler, parce que tous les sondeurs l'ont constaté, l'exhumation de Franco. L'exhumation de Franco a fait monter de 2 à 3 points le Vox dans la dernière ligne de la campagne électorale. Alors, ce ne sont pas nécessairement des nostalgiques du franquisme. C'est plutôt, là encore, une sorte de colère devant l'instrumentalisation partisane de la mémoire et d'une mémoire qui est très compliquée et très douloureuse en Espagne. Donc Vox est un mélange, une conjugaison de tous ces éléments et ils ont été portés par un autre facteur. C'est que ce système politique espagnol, il est en pleine décomposition et qu'on attend du nouveau. Il y a eu un moment la nouveauté Podemos, il y a eu la nouveauté Ciudadanos et là, la nouveauté, ça a été Vox. Et lors du grand débat télévisé entre les 5 candidats à la présidence du gouvernement, Vox, cette fois-ci, était présent, à travers son leader Santiago Abascal, parce qu'il y avait une représentation parlementaire, et la presse, de façon unanime, a dit qu'il s'était imposé dans le débat, parce que, libéré de toute hypothèque, à la fois de la bien-pensance et du politiquement correct, il a eu un langage d'une clarté absolue et d'une simplicité aussi absolue.
Marc Bassett, peut-être un mot sur ce leader, Santiago Abascal, peut-être qu'il faut commencer à bien mémoriser son nom. Qui est-il? D'où vient-il?
Il vient, comme rappelait Benoît Pellistrandi, du Pays Basque, d'une famille conservatrice du Pays Basque qui a souffert dans leur propre chair, on peut dire, le terrorisme de l'ETA et qui, je crois que ça c'est un signe d'identité pour beaucoup de personnes, de dirigeants de Vox. C'est logique que ces partis très nationalistes espagnols, ultranationalistes, viennent du Pays Basque. De la même manière, je ne peux pas faire le lien parce qu'on ne peut pas les comparer, mais Ciudadanos, qui est un parti aussi qui a agité le drapeau espagnol face à la Catalogne, c'est un parti qui vient de la Catalogne. Donc les leaders qui ont plus porté la voix de la défense de la nation espagnole sont un catalan et un basque.
Oui, il y a en Espagne des régionalistes et puis aussi un nationalisme espagnol qui existe et qui a peut-être été renforcé en contrepartie des régionalismes catalans et basques, par exemple, pour ne prendre que ces deux exemples.
Je crois que le nationalisme espagnol était toujours là, mais il était, on peut dire, caché ou couvert, parce que l'Espagne a été, après la mort de Franco, un pays très pro-européen. C'était la constitution, c'était pas la nation. Il y avait un certain gêne avec le drapeau et les symboles de la nation espagnole. La crise catalane, je dirais, a fait revenir le nationalisme espagnol, ou l'a découvert. Il était là, on le voyait pas, il était dissimulé, on était gêné face au nationalisme espagnol. Beaucoup d'Espagnols ne sont plus gênés de montrer le drapeau comme réaction à la poussée indépendantiste catalane.
Henri Delaguerrier, de Barcelone, vous avez envie d'intervenir, j'ai cru le comprendre.
Oui, non, sur Santiago Abascal, il y a des éléments quand même assez intéressants. Il s'est beaucoup regardé dans le miroir de Matteo Salvini. Il y a des choses qui se ressemblent. On a en Santiago Abascal un homme très viril, très musclé, qui fait beaucoup de sport, qui a toujours cette chemise ouverte et qui s'exprime toujours avec véhémence au micro, qui est en couple avec une jeune femme qui est connue sur une blogueuse sur Instagram. Il y a donc ce style qui séduit aussi beaucoup les jeunes. Et c'est vrai que cette fois-ci, c'était assez étonnant de constater que maintenant, Vox, ce n'est pas seulement cette extrême droite résiduelle et cette Espagne ultra-conservatrice, c'est aussi toute une partie de la population, des jeunes très très peu politisés, qui sont séduits par ce discours, par ces vidéos qui tournent sur Internet. Et juste pour vous montrer un petit exemple, ils sont allés, Vox, les dirigeants de Vox, sont allés faire campagne dans le plus grand salon de jeux vidéo quelques jours avant les élections. Ils sont venus en t-shirt, se prendre en photo avec tous les jeunes. Et ça aussi, c'est un élément important pour comprendre le succès de Vox et d'Abascal aujourd'hui.
Henri Delaguerrier, vous l'aviez évoqué, c'est peut-être le succès de Vox qui a permis un accord entre les socialistes de Pedro Sanchez et Podemos de Pablo Iglesias. Pendant des mois et des mois, il y a eu des négociations n'en plus finir entre ces deux partis, ces deux têtes de parti, sans aucun accord. Et là, subitement, au lendemain des élections, en 48 heures, il y a un accord, peut-être pas de gouvernement, en tout cas de coalition, qui est intervenu. C'est la montée de l'extrême droite, comme vous l'évoquiez, qui a permis cet accord si rapide.
Bah, écoutez, en tout cas, ce qui est clair, c'est que s'il n'y a pas d'accord, on va vers de troisièmes élections. Et s'il y a de troisièmes élections, on peut imaginer que l'extrême droite sera encore plus haute parce que elle profitera de l'exaspération. Personne n'ose imaginer de troisièmes élections ici. C'est peut-être donc pour ça que la gauche s'est dit là maintenant, il faut arrêter nos bêtises entre guillemets. Il faut qu'on arrive à se mettre d'accord parce que avec une extrême droite avec 52 sièges et le Parti populaire qui est en progression. Il y a vraiment ce risque qui existe. Mais c'est vrai que c'est pour le moment qu'un préaccord, parce que, encore une fois, on va y revenir, toutes les voies, il n'y a pas encore, le compte oui. N'est pas encore bon.
Voilà.
Et donc, oui, effectivement, ce score de l'extrême droite a un peu obligé. Parce que d'un autre côté, la droite, pour le moment, ne peut pas laisser la gauche gouverner, parce que si la droite laisse la gauche gouverner, il n'y aura plus personne dans l'opposition à part l'extrême droite. Et ça, la droite ne veut pas permettre à Vox d'être la seule force d'opposition.
Oui, cet accord, on peut dire que c'est une déclaration de bonnes intentions de part et d'autre, hein, on peut dire ça.
Oui, tout à fait.
Alors, effectivement, Benoît Pinatieri, Marc Bassette, les députés du socialiste, les députés de Podemos, ça fait 155 sièges au total. Il en faudrait 176. Ça fait pas une majorité. Alors, il y a des petits partis indépendantistes qui, naturellement, pourraient se joindre à cette majorité, mais ça ne suffit pas.
Ce qu'il faut dire aussi par rapport à ce que vient de dire Henri de Laguérie, c'est que, bien sûr, l'extrême droite va être utilisée pour essayer de faire la fusion des gauches, mais il y a aussi une manœuvre de deux leaders qui ont échoué, Pablo Iglesias et Pedro Sanchez, car
Pierre les deux
ont reculé. Donc, la rapidité de la présentation de l'accord, c'est aussi une façon de taire les critiques à l'intérieur du parti. Pedro Sanchez a effectivement sorti cet as de son jeu politique, Pablo Iglesias aussi. N'oublions pas quand même que Pedro Sanchez avait, avec les socialistes, essayé de dynamiter Podemos de l'intérieur en favorisant l'apparition d'un parti concurrent qui est Más País de Íñigo Errejón. Íñigo Errejón qui était l'ancien numéro 2 de Podemos et qui a obtenu un résultat tout à fait...
3-4 députés.
Ouais,
hein.
3 députés, donc très peu. Donc il a échoué là-dessus. Donc il faut voir, il y a aussi, je dirais, dans cette accolade spectaculaire entre Iglesias et Pedro Sanchez, une survie de deux hommes qui savent qu'ils sont sur un bateau qui a pris l'eau.
Marc Bassette, en deux mots, comment arriver à une majorité? Il faut au moins avoir le soutien ou la bienveillance d'un parti catalan qui s'appelle l'ERC. Alors, je vais le dire un peu en français, la gauche républicaine catalane. Mais évidemment, qu'un parti indépendantiste catalan puisse soutenir un gouvernement espagnol, fût-il de celui de Podemos et des socialistes, c'est très difficile à imaginer.
C'est très difficile. Un parti dont le leader, Oriol Junqueras, est en prison.
Est en prison, hein.
Donc, c'est, comme dit le livre de Benoît Pradistandri, le labyrinthe catalan, vraiment. Former un gouvernement avec un parti qui veut, pour le dire ainsi directement, détruire l'Espagne pour gouverner l'Espagne, et dont le leader est en prison, je vois qu'il y a des difficultés à faire ça. Le Parti Socialiste et Podemos cherche l'abstention de la gauche républicaine catalane. Et tout le débat dans ces jours-là en Espagne est sur Esquerra Republicana. Qu'est-ce que Esquerra Republicana, la gauche républicaine catalane indépendantiste, va faire?
Henri Larry, vraiment d'un mot, cette alliance paraît, ou en tout cas ce soutien via une abstention, paraît très difficile à imaginer, hein, vous qui êtes à Barcelone.
Il est difficile à imaginer, surtout de la part de Esquerra Republicana, parce que il y a vraiment une compétition à l'intérieur de l'indépendantisme, et Esquerra Republicana régulièrement est accusé par Carles Puigdemont depuis Bruxelles, l'ancien président catalan, de faire preuve d'être trop mou finalement face à Madrid, et donc dans l'indépendantisme on a toujours peur d'être accusé de trahison. C'est finalement ce qui bloque toute possibilité d'apaisement. Rappelons que l'année dernière, par exemple, Esquerra Republicana a empêché l'un des principaux dirigeants socialistes catalan de devenir le président du Sénat en Espagne. Donc malheureusement, je dis malheureusement parce que je crois que si Esquerra acceptait de jouer le jeu de la politique espagnole finalement et de faciliter un gouvernement, peut-être ça permettrait de baisser la tension. Ils ne renonceraient évidemment pas à leur objectif d'indépendance, mais ils feraient de la politique dans les bureaux au lieu d'agiter la rue comme on le voit depuis un mois.
Alors on peut en tout cas en conclure, on arrive au terme de la première partie de cette émission, que l'Espagne va rester longtemps dans l'impasse, en tout cas politiquement. On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Pejske.
Kruzemion tut Europa.
Raskrucia Europei.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Les élections anticipées du 10 novembre dernier n'ont rien changé. Après 4 élections législatives en 4 ans, l'Espagne est toujours à la recherche d'une majorité introuvable. On l'a longuement évoqué dans la première partie de cette émission. Devant des Espagnols incrédules, les socialistes de Pedro Sanchez qui se sont maintenus et la gauche radicale de Podemos est en net recul, eh bien ils ont finalement ébauché une coalition qu'ils n'avaient pas réussi à conclure 3 mois auparavant. Mais cela reste insuffisant pour former une majorité. La droite via le Parti Populaire relève la tête. Toutefois, seul Vox, le parti d'extrême droite, sort vainqueur de ces élections. Il est devenu la troisième force politique du pays. Quant à la situation de blocage qui perdure en Catalogne, elle paralyse le reste du pays. Bref, l'Espagne est toujours dans l'impasse. Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Marc Bassett est correspondant du quotidien El País en France. Benoît Pellistrandi, professeur d'histoire, son dernier livre, Le Labyrinthe catalan, chez Desclés de Brouwer. Et puis Henri de la Guérie, correspondant de la RTBF et de la Dépêche du Midi en Espagne. Il est en ligne de Barcelone. Son dernier livre, évidemment, Les Catalans aux ateliers Henri Dougier. Avant de poursuivre notre débat, nous allons faire un petit détour par la rédaction du Courrier International. Bonjour Sacha Michel.
Bonjour Daniel.
Nous l'avons largement évoqué dans la première partie de cette émission. Le succès de Vox, le parti d'extrême droite, lors des dernières élections, a été le principal enseignement de ce scrutin. Et c'est notamment dans le sud-est, dans la région de Murcie, que les candidats de Vox ont obtenu leur meilleur score. C'est un article d'El País, votre journal, Marc Bassett, que Sacha Michel va décrypter pour nous.
Oui, absolument. C'est un reportage que nous propose El País dans cette communauté autonome, la seule d'Espagne, où l'extrême droite est arrivée en tête avec 28% des voix contre 15%, on le rappelle, au niveau national. Et il ne faut pas longtemps aux journalistes du quotidien madrilène pour trouver un électeur de Vox dans les rues de la localité de San Pedro del Pinatar. Antonio, par exemple, qui soutient ne pas être raciste mais en pointant du doigt deux mamans voilées. Il assure aussi ne pas être plus patriote que les autres, ni plus hostile aux LGBT, ne pas avoir non plus de problème avec les Ukrainiens ou les Moldaves, mais les musulmans, eux, ne s'intègrent pas, lâche-t-il. Fabiola, de son côté, se demande ce qu'ont fait ses mères de famille pour susciter une telle défiance, car de l'aveu même de la mère affiliée au Partido Popular de droite et élue 3 fois la majorité absolue, il n'y a pas de tension particulière dans cette agglomération de 27 000 habitants. Au dernier recensement, San Pedro del Pinatar comptait 7 800 immigrés, parmi lesquels 40% de Marocains, dans leur majorité travaillant dans l'agriculture. On ressent du racisme contre nous qui venons d'Afrique, regrette pour sa part Atmam, un Marocain de 18 ans venu en Espagne pour rejoindre son père. Son père arrivait lui-même il y a plus de 10 ans sur une embarcation avant de réussir à faire sa vie comme ouvrier agricole. Le jeune homme d'ailleurs se demande combien d'Espagnols seraient prêts à faire le travail dans les champs que font les immigrés, cette communauté que le parti de Santiago Abascal, le leader de Vox, a prise pour cible.
Alors il y a une tendance générale et puis il y a aussi des spécificités locales qui expliquent le succès du parti d'extrême droite Vox.
Oui, absolument, Daniel. Certains évoquent par exemple un rejet du nouveau président du Partido Popular, Pablo Casado, dans un des bastions de la droite en Espagne. Et à Cartagena, 250 000 habitants, la maire Ana Belén Castejón insiste elle aussi sur le vivre ensemble et la sécurité qui règne dans sa ville. Pour elle, le triomphe de Vox s'explique par le transfert des voix du Movimiento Ciudadano, un mouvement localiste et nationaliste, mais aussi cartagéniste, c'est-à-dire qui milite tout simplement pour la création d'un département propre de Cartagène. Et en fait, ce mouvement, rappelle El País, a remporté 27,5% des voix au municipal cette année, mais il ne s'est pas présenté aux dernières législatives, ce qui peut expliquer un peu aussi le succès de Vox. L'édile pointe aussi un vote possible des agriculteurs lassés d'être montrés du doigt comme les coupables de la pollution que connaît la mer Mineure, cette lagune située au sud-est de la région de Murcie.
Merci Sacha Michel, Courrier International, Libdo et courrierinternational.com, le site. Alors Marc Bassette, c'était un article de votre journal, El País, un reportage à Murcie. Murcie, on ne connaît pas trop, c'est vraiment le sud-est de l'Espagne, une région un petit peu très agricole, un peu loin de la capitale et des mouvements de la capitale, hein, c'est un peu ça.
Oui, agricole et un peu touristique sur la côte, mais un peu aussi loin de tout. C'est pas une région connue où les gens vont visiter normalement. Ce que je retiens, c'est que l'Espagne, en fait, devient encore plus européenne. L'Espagne n'avait pas cette extrême droite qui misait sur l'immigration. Par exemple, tous ces discours des votants de Vox, on les a déjà entendus dans d'autres pays, non? Et on dirait que l'Espagne, si on peut dire ça, se normalise d'une certaine manière.
Oui, avant, on peut parler aussi des agriculteurs qui se sentent parfois les mal aimés. C'est un problème que l'on ressent en France, qui existe, et ailleurs en Europe. Avec peut-être une particularité espagnole, c'est quand même une tendance très très forte du régionalisme. Par exemple, j'ai découvert en écoutant Sacha Michel qu'il y avait dans cette région de Murcie, là aussi des tentatives, ou en tout cas une idée d'indépendance, ou en tout cas de grande autonomie.
Exactement. Le localisme, c'est un phénomène très espagnol et qui, c'est l'une des nouveautés de ces élections aussi. Beaucoup de petits partis ont surgi, des partis Más Teruel. Teruel est une région aussi assez abandonnée espagnole. Auront un parti maintenant dans le Parlement espagnol. On dirait que la Catalogne a inspiré le reste des Espagnols à former des petits partis régionalistes. Si les Catalans réclament tout ça, nous voulons réclamer le local et la région.
Alors évidemment, tout ça nous amène à parler de la Catalogne. Alors, quelques points de repère. Le 1er octobre 2017, un référendum sur l'indépendance de la Catalogne, organisé par le gouvernement régional de Barcelone, sans l'autorisation du gouvernement espagnol. Environ 42% de votants, évidemment 90% de oui favorables à l'indépendance, mais évidemment un boycott des fédéralistes. On les appelle comme ça, les fédéralistes, c'est le bon mot, ceux qui sont pour le maintien de la Catalogne.
On utilise le terme constitutionnaliste. Parce qu'il y a aussi le terme unioniste qui apparaît dans la presse, mais qui crée un parallèle avec les questions irlandaises qui n'est pas juste.
Alors, au lendemain de ces élections, 10 octobre 2017, proclamation de l'indépendance, et puis la débandade, fuite ou arrestation des principaux dirigeants de la Catalogne. Et puis, le 14 octobre 2019, c'était il y a quelques semaines, condamnation de 9 des principaux leaders catalans à des peines de prison allant de 9 à 13 ans. Henri de la Guérie, j'ai bien résumé la situation.
Oui, c'est exactement ça. Et c'est ce verdict qui a vraiment mis le feu aux poudres et qui a entraîné cette semaine de nuit d'émeute qu'on a vue dans les rues de Barcelone. C'est la première fois qu'il y avait des manifestations vraiment violentes. Et depuis, même si ça s'est un peu calmé, des blocages d'autoroutes et une mobilisation presque permanente des indépendantistes, parfois des indépendantistes les plus radicaux.
Alors, il y a une double impasse en Espagne. Il y a une impasse en Catalogne. Et puis l'espace au niveau gouvernemental. Bon, la ministre Randi, personne, et surtout pas les dirigeants catalans, semblent avoir la moindre idée de comment sortir du conflit. Voilà.
En réalité, il y a des idées, mais personne actuellement en Catalogne n'a intérêt à sortir du conflit. C'est que le conflit nourrit sa propre dynamique et le conflit permet à chacun des acteurs de ce conflit politique et dans le camp indépendantiste, d'être en tête ou d'essayer d'être en tête du mouvement. Alors, je suis pas en train de dire la solution existe, je l'ai, pas du tout, mais il y a eu des propositions.
Vous seriez à la tête du gouvernement non, à Madrid.
Non, le Parti Socialiste propose la fédéralisation de l'Espagne. Alors, ce n'est pas d'ailleurs sans créer des tensions à l'intérieur du Parti Socialiste. La fédération catalane, le Parti Socialiste de Catalogne, est très favorable à cette fédéralisation. Ça supposerait une réforme de la Constitution et les conditions de la réforme de la Constitution ne sont pas actuellement en Espagne. Il faut une majorité de 3/5. Même le Parti Socialiste et le Parti Populaire ne l'ont pas. Ils arrivent à 208 sièges, il en faut 210. Bon, donc on a une véritable impasse. Et l'impasse est d'autant plus forte que chacun se crispe pour justement réaffirmer des principes, mais des principes qui ne permettent pas d'avancer. C'est-à-dire qu'au lieu de poser sur la table les problèmes, alors qui sont de différents ordres, il y a le problème du financement de l'État des autonomies. Donc effectivement, Comment fait-on pour que les régions aient l'impression de participer de façon globale à l'effort solidaire, mais d'en retirer quelque chose? La Catalogne a le sentiment de payer trop pour le reste de l'Espagne. Il y a un problème d'infrastructure. Est-ce que les infrastructures ont été bien distribuées dans l'ensemble de l'Espagne? Et là encore, les Catalans ont le sentiment que la Catalogne souffre d'un déficit d'investissement de l'État. Il y a naturellement des questions identitaires. Est-ce que la Catalogne est bien reconnue à son niveau national culturel? Certains estiment que oui, les Catalans estiment que non. Et puis je dirais quatrième point, effectivement, cette question de l'indépendance. Est-ce que l'autodétermination, on peut l'envisager ou pas? Dans l'actuel cadre constitutionnel, on ne peut pas, puisque la souveraineté appartient à tous les Espagnols, qu'il faudrait donc faire un référendum sur l'ensemble de l'Espagne, et les Catalans disent non. Mais les Catalans disent, nous voulons un référendum à l'intérieur de notre communauté autonome. La difficulté, c'est que ça voudrait dire définir aussi un peuple catalan qui, juridiquement, n'existe pas. Il existe peut-être culturellement, il existe peut-être émotionnellement, mais juridiquement, si demain, votre travail vous conduit à Barcelone alors que vous viviez à Murcie, vous devenez électeur en Catalogne. Donc, ce sont toutes ces questions qui sont sur la table, qui demandent des réponses politiques, mais les réponses politiques, on les construit techniquement. Or, on est dans l'incapacité de le faire, et je crois qu'un des éléments très importants, il y a la fragmentation nationale espagnole qui est claire, mais l'unité du camp indépendantiste est de pure façade. Et la pression que les indépendantistes se sont imposés à eux-mêmes, et la dialectique assez complexe dans laquelle ils se sont enfermés, c'est un des éléments du labyrinthe, entre les appareils d'un côté et l'opinion publique de l'autre, les conduit à exacerber leur posture. Et on le voit dans le fait que la mobilisation populaire, elle a été travaillée par les partis politiques. Les comités de défense de la République qui ont été à la manœuvre dans ces nuits d'émeute et dans les manifestations que l'on voit encore aujourd'hui sont des choses qui sont en partie contrôlées par les cadres politiques. Et puis, on le sait bien, il va y avoir des élections en Catalogne, sans doute dans les mois à venir, en 2020. Donc, il ne faut pas perdre le leadership. Et si on regarde les toutes dernières élections, Esquerra Republicana a perdu quelques voix, a perdu environ 140 000 voix, alors que Junts pel Cat, qui est le parti de Carles Puigdemont et de Quim Torra, en a gagné 20 000, avec une abstention qui s'était accrue. Donc, si jamais la Catalogne devient indépendante, ensuite, il y aura une course pour le pouvoir. Donc voilà, tous les éléments qui font qu'on a créé partout des verrous, et qu'il y a un sentiment très fort de blocage, et puis je dirais aussi beaucoup de blessures infligées de chaque côté, parce que il y a cette dimension, j'allais dire technique, raisonnable, que j'ai essayé d'exposer, mais il y a aussi toute la dimension émotionnelle.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desescal.
Carrefour de l'Europe, l'Espagne dans l'impasse. Nous sommes avec Marc Bassat, correspondant du quotidien El País en France, avec Benoît Pellistrandi, professeur d'histoire. Il vient de publier Le labyrinthe catalan chez Desclés de Brouwer. Et avec Henri de Laguéry, correspondant de la RTBF et de la Dépêche du Midi. Il est en ligne de Barcelone. Et lui aussi vient de publier un dernier livre, Les Catalans aux ateliers Henri Dougier. Marc Bassat, les dernières élections nationales, évidemment elles ont lieu aussi en Catalogne, et elles n'ont pas changé. Les lignes de fracture restent les mêmes. Les indépendantistes ont gagné un siège au niveau national. C'est peu de choses. Le pays reste très divisé entre d'un côté des indépendantistes et puis de l'autre des constitutionnalistes qui veulent rester au sein de l'Espagne.
Oui, je ne me sens pas confortable quand on dit les Catalans. Souvent, on a des discours.
Alors, il faut quand même préciser que vous êtes catalan.
Je suis catalan. Et il y a beaucoup de Catalans. Et les Catalans sont très divisés, plus divisés que jamais. L'une des conséquences de tout ce processus indépendantiste qui a commencé il y a une dizaine d'années a été la division de la société catalane, la division même de familles et d'amis. C'est un sujet grave, dans la société catalane en ce moment. Et on le voit dans chaque élection. Les variations sont très légères, en réalité. C'est toujours, pour résumer, en synthèse, 50-50. Il n'y a pas une unité catalane, il n'y a pas une majorité indépendantiste en Catalogne. Il pourrait y en avoir une dans le futur. Et alors, on pourrait discuter toutes les complications légales pour attendre l'indépendance. Mais jusqu'à ce moment-là, il n'y a pas eu une majorité indépendantiste de voix de sièges, oui, dans le Parlement catalan, mais pas de voix pour l'indépendance dans toutes les élections qu'on a eues dans les dernières années.
Henri de Léguéry, Marc Bassat parlait de familles, de divisées, d'amis qui ne se parlent plus. Vous qui êtes à Barcelone, vous le constatez au quotidien ?
Oui, alors c'est un sujet extrêmement délicat parce que quand on dit ça aux autorités catalanes, aux dirigeants indépendantistes, qu'on leur dit « Est-ce que vous êtes préoccupés par cette division ?» Ils nient cette division. Pour eux, il n'existe pas de division. Et ils expliquent que c'est finalement le discours de Madrid que l'on reprend ici. Mais dans la réalité des faits, il y a évidemment une division. Alors, que les choses soient bien claires, il n'y a pas du tout d'affrontement dans la rue. Il y a parfois quelques petits incidents liés aux manifestations, mais c'est évident qu'il y a une partie de la Catalogne. C'est souvent les non-indépendantistes, c'est 50% de la Catalogne non-indépendantiste qui ne parle plus de politique, qui ne veut plus en parler parce que c'est compliqué d'assumer que on est hostile à l'indépendance. C'est d'autant plus compliqué que, comme le disait Benoît Pellistrandi, il y a vraiment cet aspect de l'émotion. Tout n'est qu'émotion, malheureusement, aujourd'hui en Catalogne. Et le fait qu'il y ait 9 dirigeants indépendantistes condamnés à des peines de prison, ce sont des peines de prison extrêmement lourdes tout de même, hein, 13 ans de prison pour Oriol Junqueras, fait qu'on a beaucoup de mal à en parler, à en parler sereinement. Et finalement, même quand les dirigeants de Esquerra Republicana tentent de dire oui, attention, on n'est peut-être pas encore assez nombreux, attention, essayons de garder les pieds sur terre, eh bien, il y a leur base qui leur dit non, attendez, vous ne pouvez pas reculer maintenant. Donc ça rend finalement les choses très compliquées. Et juste pour l'anecdote, Vox, évidemment, a fait un score beaucoup moins important en Catalogne que dans le reste d'Espagne, mais Vox a fait des très bons scores dans les quartiers très populaires et dans la banlieue autour de Barcelone. Et c'était des gens, je les ai rencontrés, des électeurs qui disaient « Nous, avant, on votait à gauche, mais là, c'est terminé. On se sent méprisé et humilié par les dirigeants indépendantistes catalans qui font comme si on n'existait pas. Et bien maintenant, vote protestation, je vote Vox. »
Alors, Henri de Léguéry, quel peut être l'impact de ces prisonniers politiques, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, je l'emploie. Donc, les 9 indépendantistes, dirigeants indépendantistes catalans, donc qui purge une peine de prison allant de 9 ans à 13 ans. Ça va probablement radicaliser les indépendantistes, mais est-ce que ça va conforter aussi les constitutionnalistes, comme on dit ?
C'est certain que ça a renforcé la détermination des indépendantistes, on l'a vu, hein. C'est bien pour ça qu'il y a autant de manifestations et de protestations dans la rue ces dernières semaines. Rapidement, on va se poser la question de sortie un petit peu prématurée de prison, parce qu'il y a un système comme en France qui permet des aménagements de peine, et ces prisonniers-là qui ont été condamnés ont droit au même traitement que n'importe quel prisonnier en Espagne, à savoir sortir plutôt de prison si les conditions sont réunies. Et malheureusement, on voit déjà qu'à Madrid, une partie de la presse très conservatrice va tout faire pour s'opposer à ça. La droite va s'opposer à ça. Et c'est ce que disait un peu Benoît Pellistrandi. On a le sentiment que ça arrange toujours tout le monde, ce conflit, parce qu'il y a quand même, il faut le rappeler, de la part à Madrid, de la part d'une partie de la droite très conservatrice et des médias conservateurs, parfois un sentiment, je dirais presque, de vengeance. Ce sentiment que, voilà, on ne veut pas que les choses avancent. Évidemment, ces condamnations, ce sont celles de la justice, et l'Espagne est un état de droit. Mais il faut bien penser que derrière ces 9 détenus catalans, il y a 2 millions de personnes qui vivent ces condamnations comme si c'était les leurs. Et ça, c'est difficile de dire aux gens que ce sentiment-là n'existe pas chez eux. Il existe, et il y a vraiment un sentiment d'injustice extrêmement profond. Ces 2 millions de Catalans, Madrid souhaite qu'ils soient espagnols. Il faut aussi essayer de les entendre et de les prendre en compte.
Benoît Pellistrandi.
Cette question de la judiciarisation du conflit est très difficile à comprendre parce qu'elle vient introduire effectivement une rationalité et la dureté de la rationalité dans un conflit qui n'est qu'émotion. La justice espagnole a été saisie par le précédent gouvernement, Mariano Rajoy, qui, justement, ne voulant pas traiter politiquement l'affaire, a repéré les comportements susceptible d'être condamnable, et donc a demandé à la justice de faire son travail. Donc la justice a fait son travail. En fait, ce sont les politiques qui n'ont pas fait leur travail. Donc je ne pense pas qu'on puisse parler de prisonniers politiques, parce que les prisonniers politiques seraient des prisonniers où il y aurait un arbitraire dans leur arrestation. Là, il y a un code pénal, ils ont effectivement commis des délits. Alors, il y a eu d'ailleurs un débat, est-ce que c'était rébellion ou sédition ? L'idée de rébellion est tombée à l'eau, et donc ils ont été condamnés pour sédition, pour détournement de fonds. Du coup, on est en train d'accuser la justice, et en le faisant, on accuse aussi du coup la qualité de la démocratie espagnole, alors même qu'elle a vraiment fait son travail à l'intérieur du cadre de la séparation des pouvoirs. Mais, je dirais, le problème est de façon plus vaste, l'attitude générale de la classe politique vis-à-vis des électeurs et du respect de la démocratie. Il se trouve que cette semaine, on a eu aussi un cas très différent, mais un jugement qui a été rendu à Séville, où tout l'ancien gouvernement socialiste d'Andalousie est condamné à de la prison ou à de l'inéligibilité. L'ancien président Grignan est condamné à 6 ans de prison pour un détournement massif de fonds, plus de 700 millions d'euros qui ont été détournés au profit de la clientèle du Parti socialiste. Et auparavant, on avait eu la trame de corruption du Parti populaire, ce qu'on appelle en Espagne la trama cartel, qui a conduit à des condamnations et qui était à l'origine de la motion de censure qui a renversé Mariano Rajoy. Donc, vous voyez, la justice vient opérer ce que la classe politique a été effectivement incapable de faire. Elle n'a pas été capable de s'autocontrôler sur la question de la corruption. Donc la justice est venue. Et sur la question catalane, je dirais, la justice est venue trancher ce que le choc de train institutionnel entre l'État espagnol et la Généralité de Catalogne a provoqué. Et alors là où je rejoins complètement Henri de Laguérie, c'est que si on peut avoir une lecture judiciaire de la chose et qui comprend parfaitement la sentence qui a été donnée, on ne peut pas sous-estimer le sentiment des Catalans. Mais je voudrais donner une anecdote. L'autre jour, je rencontrais Teresa Freixes, qui est professeure de droit constitutionnel à l'Université autonome de Barcelone, et elle nous racontait que, à cause des manifestations suite à la sentence de ce procès, les étudiants ont manifesté. Le président de l'université a envoyé à tous les professeurs un courrier en leur demandant de prévoir pour les étudiants qui manifestaient des examens allégés. Et en disant que les professeurs n'avaient pas le choix, que la liberté de pédagogique n'existait pas là-dessus, que c'était une décision qu'ils prenaient. Et ils demandaient donc aux professeurs de faire la liste des étudiants qui iraient manifester et des étudiants qui ne manifesteraient pas.
Les bons et mauvais en quelque chose.
Voilà. Et du coup, elle, en tant que professeure de droit, dit « Mais attention, c'est une atteinte grave à la liberté des données, c'est-à-dire au secret des données, on ne peut pas. » Donc, vous voyez, jusqu'où s'introduit ce conflit qui n'est pas seulement, effectivement, politique, mais qui est devenu civique et qui pose des vrais problèmes quant au fonctionnement interne des institutions catalanes.
Marc Bassett, il faut quand même se poser la question, est-ce qu'on peut parler de nation catalane?
C'est un grand débat. Ça dépend, je crois que c'est un débat sémantique. Il faut se poser la question, qu'est-ce que veut dire nation? Si nation veut dire État, les Nations Unies, par exemple, les Nations Unies sont un ensemble d'États. Évidemment, la Catalogne n'est pas une nation. Si nation veut dire une communauté avec des affinités culturelles, avec une histoire commune.
Avec une langue.
Avec une langue, avec une identité, avec... comme dirait peut-être Renan, une volonté d'être une nation, le plébiscite quotidien, oui, on pourrait dire que la Catalogne est une nation. Une autre question, c'est dire, est-ce que du fait que la Catalogne soit une nation, découle la nécessité d'un État? Est-ce que toute nation doit avoir un État, ou on doit croire qu'il peut y avoir des États plurinationnels, où on s'entend tous, où toutes les identités sont reconnues et entendues? Ça, c'est une autre question.
Henri de Laguérie, Benoît Pellistroni avait évoqué une idée majeure du Parti Socialiste Espagnol, à savoir la Fédération Espagnole. Il est trop tard pour l'imaginer d'un point de vue catalan ou pas?
Il est peut-être jamais trop tard. De toute façon, c'est peut-être une solution plus raisonnable, entre guillemets, qu'une indépendance par la rupture, parce qu'on a bien vu qu'une indépendance négociée, pour le moment, est hors de question. Et une partie de l'indépendantisme le plus radical, celui qui se trouve à Bruxelles avec Carles Puigdemont, mise désormais sur un affrontement direct avec Madrid. Donc effectivement, une réforme fédérale, ça ne semble pas le projet le plus séduisant pour une majorité de gens, mais c'est peut-être le projet le plus raisonnable, là où pourront se retrouver une partie des indépendantistes qui sont prêts à faire des concessions et une partie du camp constitutionnaliste qui est bien conscient que le statu quo ne peut pas fonctionner. À court terme, ce n'est pas envisageable parce que le Parti socialiste, s'il arrive à gouverner, ne s'engagera peut-être pas dans cette réforme tout de suite, mais c'est vrai que ça peut être un horizon intéressant. Le Parti des socialistes catalans y sont favorables, Podemos y est favorable, mais le problème, c'est que c'est une réforme qui mériterait que la droite ou une partie de la droite y adhère, et pour le moment c'est absolument pas le cas.
Il y a en Espagne, Henri de Laguérie, un certain nombre d'Espagnols, en tout cas d'habitants de l'Espagne, de citoyens du Royaume d'Espagne, qui ne se sentent pas espagnols. Ce sont les Basques, ce sont les Catalans, et c'est pas comme au niveau des Français. Les Français, on peut être breton et se sentir très français. La nation espagnole n'a pas réussi à atteindre ce niveau d'appartenance à un pays.
Non, mais d'ailleurs, je crois que notre émission en est la preuve, parce que depuis le début, on explique à quel point voilà, l'Espagne a des problèmes, a du mal à se gouverner, parce qu'il y a un vrai problème d'identité, et c'est pas en 2019 qu'on peut résoudre voilà, des siècles et des siècles de construction espagnole, mais il est évident que une fracture est très forte, là, désormais, on a quand même la moitié de la Catalogne qui, effectivement, a dans sa tête vraiment largué les amarres avec l'Espagne, donc ça, c'est un problème. Il y a effectivement au Pays Basque, on en parle moins, mais une partie quand même du Pays Basque qui voilà, ne se sent pas du tout espagnol. Alors la question est peut-être moins compliquée au Pays Basque, parce que le Pays Basque a une autonomie absolument exceptionnelle et dispose de ses propres ressources. Donc ça, c'est une différence avec la Catalogne. Mais c'est vrai qu'on voit aussi dans tout un tas d'endroits d'Espagne des gens qui ne veulent pas forcément faire sécession, mais qui privilégient vraiment leur identité locale aux dépens de l'identité espagnole.
Marc Basset, ça va être le mot de la fin. Une Espagne dans l'impasse, ça veut dire aussi une Espagne très faible en Europe, et c'est pour une émission qui s'appelle Carrefour d'Europe, c'est évidemment un problème quand on voit que l'Italie est fragile, que l'Allemagne et Angela Merkel est en fin de course. Voilà, l'Espagne, c'était un pilier de l'Europe, un pilier qui s'affaiblit.
Oui, l'Espagne a été absente dans les 6 derniers mois de tous les débats européens, et a été absente aussi pour le président de la République française, qui a besoin d'alliés, qui perd son allié allemand Angela Merkel, qui avait eu dans les premiers mois de Pedro Sánchez dans le gouvernement espagnol un allié très loyal dans toutes ses initiatives européennes, et qui est en train de le perdre. Et on comprend bien pourquoi le gouvernement français, mais aussi la Commission européenne de Bruxelles, sont pressés pour avoir un gouvernement de alliance Parti socialiste de la gauche, un gouvernement de grande coalition, n'importe quel gouvernement qui puisse à nouveau réintégrer l'Espagne dans les jeux européens.
Et ce qui se traduit par un très très faible soutien aux indépendantistes de Catalogne, c'est un euphémisme de le dire.
Oui, certainement.
Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier avec Sacha Mitchell de Courrier International. Je rappelle vos deux livres, Benoît Pellistrandi, Le labyrinthe catalan chez Desclés de Brouwer, et Henri Delaguerie, Les Catalans aux ateliers Henri Dougier. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe et tous ceux qui l'ont précédé, deux possibilités, le site erifi.fr et l'appli Erifi Pure Radio. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desesquelles, que vous soyez à Madrid, Barcelone, Paris, ailleurs en Europe, ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.
Musique du monde.